Musique juive d'hier et d'aujourd'hui. Une émission de l'Institut européen des musiques juives, produite et présentée par Hervé Rotten sur Judaïque FM.
I'm the sugar for my baby, and my sugar's my sugar for me. Means I'm crazy for my baby, and my baby's crazy for me. Things were mild till I met my honey. Now I'm wild over honey.
Chères auditrices, chers auditeurs, bonsoir et bienvenue à notre rendez-vous mensuel de l'Institut européen des musiques juives. Notre objectif, vous faire découvrir la richesse et la diversité des musiques juives. Musique juive d'hier, mais aussi d'aujourd'hui. Et ce soir, j'ai le plaisir d'accueillir dans ce studio Michel Lévy. Michel Lévy, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes producteur. On va faire connaissance avec vous parce que vous avez une personnalité attachante et particulière. Et au début des années 1990, si je ne me trompe pas, vous avez coproduit avec Bruno Barré, qui était votre acolyte à l'époque, une collection de CD qui s'intitulait
Trésor de la chanson judéo-arabe.
Et qui a permis donc de redécouvrir des artistes qui, à l'époque, étaient tombés dans l'oubli ou presque.
Complètement, qui étaient des artistes de bar mitzvah, de mariage, comme on va dire.
Vous pouvez nous donner quelques noms, par exemple.
Lily Boniche, Blon, Renette Loranez, René Pérez, des gens qui étaient actifs dans la communauté après l'indépendance des Afrique du Nord, voilà, qui sont arrivés à Paris et qui ont opérer dans les fêtes de famille et enregistré à Paris sur le label Dounia, qui était tenu par le chanteur El Karlaoui Tounsi.
D'accord. Voilà. Et donc, vous avez en fait acquis ce label Dounia. Oui. Comment ça s'est passé exactement?
Bon, moi, j'ai eu la chance de travailler avec El Karlaoui Tounsi comme directeur commercial de sa marque Dounia. C'est moi qui l'ai introduite dans les Fnac au départ, les Virgin, ensuite à l'exportation. C'est un travail très intéressant. Et donc c'est ainsi que moi je suis arrivé avec ce monsieur à faire ce travail de direction artistique. Et ensuite, lorsque à son décès, ses enfants ont fait leur alia, et donc maintenant qu'est-ce qu'on va faire de ce catalogue? Sinon il va mourir dans une cave, donc j'ai acquis ce catalogue.
Et c'était un catalogue très important. Il y avait combien de titres exactement? Vous parlez de plusieurs milliers, je crois.
Oui, plusieurs milliers de titres qui sont toujours actifs et que, justement, aujourd'hui, j'essaie de perpétuer une mémoire pour les jeunes de la communauté juive de France et d'ailleurs pour qui ces artistes sont totalement inconnus. Même cette musique, parfois ils sont quelques bribes de souvenirs encore dans les mariages ou des bar mitzvah, mais c'est tout. Parce qu'aujourd'hui, les DJ ont un peu remplacé la musique vivante.
Tout à fait.
Et il faut dire aussi que ces artistes ont peu à peu disparu aussi. Ils sont morts aujourd'hui. Il reste plus que Luc Cherki. Voilà.
Et donc ce soir, vous nous proposez un parcours de mémoire presque,
oui,
dans ce patrimoine musical des Juifs du Maghreb, du Moyen-Orient, et en particulier, on va parler des chanteurs et des chanteuses d'ailleurs, tunisiens.
Tout à fait.
Puisque vous avez édité, mais c'est un des disques de votre collection, un disque qui s'intitule « Chanteurs juifs de Tunisie ».
Tout à fait.
Vous avez eu la gentillesse de m'apporter juste également « Chanteurs juifs du Maroc » et vous avez déjà publié « Chanteurs juifs d'Algérie ».
Tout à fait. Et le prochain volume, c'est les chanteurs juifs du Moyen-Orient.
Alors, je vous propose, pour qu'on rentre tout de suite dans le sujet, qu'on écoute un premier extrait musical de ce très beau disque avec le grand et unique Raoul Journeau.
يا بلادي ما ننساك نتفكرك تهيج ناري يا ننساك نتفكر كتهيج ناري قلبي مريد بذاك يا رب حنو داري سلمتنا فيك يا بلادي يا بلاد أحبابي وأجدادي سلمت في الجنة أخلع وبنى سلمت في الجنة أخلع وبنى يا ناري يا ناري عليك يا بلادي
Selem Tanafekia Bladi, je ne sais pas si j'ai la bonne prononciation, un enregistrement de 1955 avec la voix magnifique de Raoul Journeau. Raoul Journeau, un grand chanteur, Michel Lévy. Quelques mots juste sur Raoul Journeau, né en 1911, mort en 2001, donc il y a un peu plus de 10 ans. Il s'est, comme beaucoup de musiciens de son temps, c'est un autodidacte, il s'initie tout seul.
Une grande figure, très, très attachante d'ailleurs, que j'ai bien connue. Qui a enregistré plusieurs albums pour les disques Dunia. D'ailleurs, on va sortir un double album de Raoul Journeau là prochainement. Bon, c'est pareil, il était cantonné aux fêtes de famille, bar mitzvah, mariage, très prolixe à l'époque. Hein, et quelqu'un de très attachant, de très, très belle personnalité.
Et vous me disiez même hors micro que souvent ces chanteurs, ces artistes juifs tunisiens, ils étaient chanteurs pour les fêtes, pour les bar mitzvahs et tout, mais qu'ils avaient à côté d'autres
activités. Ils avaient une activité à côté, bien sûr. Ouais.
Ils tenaient quoi
des commerces. Par exemple, Karawi Tounsi, il avait un magasin de meubles, il avait un magasin de disques au détail. Il était le propriétaire du Bataclan. Donc, il avait avec ses enfants, ils avaient un commerce aussi de vidéos arabes. Donc, Karawi Tounsi faisait aussi, à part les fêtes de famille, beaucoup de musique de film avec Michel Legrand.
Intéressant.
C'était bien. Alors qu'il était autodidacte évidemment, et analphabète. Il n'avait ni lire ni écrire, mais... D'ailleurs, une petite anecdote, un jour, il me dit, tiens, Michel, j'ai pas mis lettre, est-ce que tu peux me lire cette lettre-là Ça, il ne savait pas que je savais qu'il ne savait ni lire ni écrire. Mais j'ai bien aimé ce côté puritain un peu. Et c'est une très belle personnalité aussi. Ce sont des gens... Enfin, je veux dire, ces personnalités-là, on manque aujourd'hui.
Vous me disiez hors micro, justement, qu'il n'y avait pas de relève.
Non, malheureusement, il n'y a pas de relève. Mais c'est dû au fait aussi qu'il n'y a pas eu de transmission. Parce que bon, avec d'autant plus qu'aujourd'hui le déclin du disque, l'arrivée des nouvelles technologies, vous savez, les smartphones, vous avez dans le métro, les gens ils se regardaient plat, mais maintenant encore moins, ils sont tous avec leur téléphone en train de surfer sur. Donc et puis bon, il y a ce désintérêt des musiques vient du fait aussi que les bon, j'ai rien contre les DJ, mais c'est beaucoup plus pratique de passer une série de disques. Et c'est moins onéreux, et puis techniquement, c'est.
D'avoir de la musique vivante.
Oui, puis bon, aussi, bon, tous ces artistes ont disparu. Donc, comme il n'y a pas de relève, il n'y a plus rien.
Mais alors, est-ce que ce n'est pas un fait, même si on remonte avant l'indépendance de la Tunisie, est-ce que ce n'est pas un fait spécifique à la Tunisie? Parce que vous me dites qu'il n'y avait pas de relève, il n'y avait pas de transmission. Mais en Algérie, par exemple, je pense que la situation est un peu différente. Il y avait quand même une tradition de maîtres qui formaient des élèves, même si en fait chaque maître gardait secrètement ses pratiques, sa façon d'improviser.
Oui. Vous disiez bien en Algérie.
Oui.
En Tunisie, il y avait aussi, ou au Maroc, il y avait, mais une fois qu'ils sont arrivés dans la diaspora en France, bon, par le déchirement d'avoir quitté un pays où on est né, il a fallu se remettre à des c'est plus la nostalgie. Et puis après, chacun a dû se reconstruire une vie. Donc il y a eu c'est très important après les cabarets. Il y a eu l'apparition des cabarets. Le président Mitterrand, d'ailleurs, venait écouter Lili Boniche secrètement. Il y avait le cabaret El Jezaïr. Il y avait à la rue de la Huchette. Et il y avait comme ça des endroits dans Paris où on pouvait écouter.
Mais ce n'était pas des endroits de transmission. Donc ce que vous nous dites, en fait, c'est que l'indépendance et en fait l'exode existe. Il y a une cassure nette dans la transmission d'une tradition
parce que,
qui était vivante.
Vous savez que en Algérie, par exemple, ou en Tunisie, ou au Maroc, c'était des orchestres mixtes, judéo-musulmans. Ça posait pas de problème. Les gens vivaient ensemble, avaient la même passion de la musique. L'aspect politique était très loin, donc ça faisait de très beaux orchestres. La qualité principale était d'être un bon virtuose.
Je comprends. Voilà. Mais alors justement, puisque vous parlez de judéo-musulman, vous avez utilisé pour la précédente collection un terme parfois controversé de judéo-arabe. Et je sais que souvent ça fait l'objet dans les discussions, notamment de différents musicologues, mais c'est pas de la musique judéo-arabe. Lili Boniche lui-même disait, mais moi je joue pas de la musique judéo-arabe, je joue de la musique arabe.
Lui disait même le franc-arabe.
Alors il y a eu plein de termes intéressants, de franc-arabe, de franco-oriental aussi.
Oui, hein. C'est presque, si vous voulez, des termes génériques. Pour identifier un style musical, pour les magasins, c'est plus pratique de classer la musique, vous savez, dans les bacs. Bon, et puis bon, c'est apparu comme ça. Il y avait un côté pratique, sans controverse. C'est la première expression qui nous paraissait plus ou moins adaptée à ce contexte. Voilà. Mais il n'y a pas eu de recherche Et puis c'était accepté par tout le monde.
Alors on va écouter tout de suite un deuxième extrait de ce très beau disque. Il s'agit de Cher El Afrit.
Cher El Afrit.
Afrit, donc qui nous chante Ged Ma Melt Maak, et on en parlera juste après.
قد ما عملت ما تراها خسارة
Nous venons d'entendre « Ged Ma Melt Mac » chanté par Cher El Afrit, un enregistrement de 1937, donc un enregistrement ancien que l'on retrouve toujours dans ce CD que vous nous présentez, chanteur juif de Tunisie, Michel Lévy. Et juste quelques mots, si vous me permettez, je joue le musicologue de service sur Cher El Afrit. En fait, j'emprunte ces mots d'ailleurs à Gérard Bardavi, qui aurait dû nous rejoindre dans ce studio, mais en son absence, je vais me permettre de reprendre les quelques mots qu'il met dans son bref livret, puisqu'il recontextualise un peu la pratique de ses chants. Et donc, Cher El Afrit, il nous dit, là aussi, c'est un musicien totalement autodidacte, hein, qui, en fait, dans le magasin de son père, je crois, va... utiliser toutes sortes d'instruments de musique. Il a à peine 5 ans et donc il moule le café d'ailleurs au pilon de ses petites mains, mais à la synagogue, et souvent il y a des passerelles entre le chant synagogal et le chant, je dirais, de profane, quoi, enfin le chant de tous les jours. Donc ce Cher El Afrit, qui s'appelle Israël Rosure de son vrai nom, se fait remarquer par ses talents de vocaliste et il chante sans arrêt. C'est pour ça qu'on le surnomme bientôt El Afrit, le seigneur de la rue, sous-entendu le génie. Et il en chante tout le monde et il n'a même pas 20 ans lorsqu'il donne des soirées musicales dans le palais du Bey. Et malheureusement, il décède très jeune, prématurément, d'une pneumonie. Il a seulement 42 ans. Heureusement, son talent nous est conservé par ces enregistrements que vous faites revivre, Michel Lévy. Et vous me disiez toujours hors micro, et c'est vrai quand on entend ces enregistrements que ça sonne totalement comme de la musique arabe. Et que...
Tout à fait, c'était fondu dans la masse d'ailleurs. Cher El Afrit, pour beaucoup de gens qui aimaient cet artiste, on ne savait même pas qu'il était juif, plus s'en foutait de toute façon. Et il y avait, la primauté c'était d'abord d'avoir une belle voix, une belle musique, d'être un virtuose, c'était très important. Et tout le monde aimait cet artiste, qui aujourd'hui encore reste un artiste important, très important, dans la mémoire collective de ceux qui ont aimé ses musiques. Mmh. Et puis vous avez qu'à voir aussi même, dire, vous avez rappelé que cet enregistrement est de 1937, on aurait beaucoup de mal à refaire vivre, à recréer aujourd'hui en studio ce type d'interprétation. Parce qu'il y a ce côté suranné, mais encore vivant, avec une âme. Et ça, c'est très important, l'âme.
Bien sûr.
L'âme de ces musiques. Mmh. Et on les retrouve dans cette collection. Justement, j'essaie de refaire vivre l'âme perdue de ces artistes qui sont morts, mais qui perpétuent ces musiques parce qu'ils nous ont laissé, quoi, leurs enregistrements.
Et alors, cette collection, est-ce que justement elle est vendue? On peut la trouver dans ces pays comme la Tunisie, l'Algérie, le Maroc, ou est-ce que...
Alors oui, bon, trouver, c'est-à-dire que... ce sont des productions locales, plus de la piraterie aujourd'hui que des... Une fois que les musiques arabes en général étaient, avant les indépendances, tenues par Philippe Pathé, qui était installé, puisque c'était la France. Hein. Mais aujourd'hui, quand c'est très difficile de trouver ces artistes, sauf on les trouve encore en piraterie, quoi. Mais bon, sinon, bon, on a la chance quand même de pouvoir les trouver ici en France.
Ce que vous me disiez, ça c'est amusant toujours hors micro, que oui. Parmi vos principaux clients, ce sont les Japonais qui s'intéressent.
Ah, mais c'est musique juive,
c'est incroyable.
Arabe, ce sont les Japonais. Parce que les Japonais adorent les voix, adorent l'art. D'accord. Ils sont très méticuleux. D'ailleurs, à chaque sortie, je dois faire traduire en français donc les titres afin qu'ils soient retraduits derrière en japonais. Chaque disque, sur chaque disque est apposé un petit bandeau autocollant en japonais qui explique un peu le thème de chaque chanson et puis un peu une biographie de l'artiste dans le contexte des enregistrements. Et ils sont très précis, très pointus et très fidèles à cette collection. Je pense d'ailleurs que le premier pays d'exportation pour moi, c'est le Japon.
C'est quand même assez incroyable, mais c'est une très belle anecdote que vous nous racontez là. Et autre chose qui est assez frappant justement dans ce disque qui s'intitule « Chanteurs juifs de Tunisie », on l'a dit au départ, c'est qu'il y a des chanteurs, mais il y a aussi des chanteuses.
Oui, des chanteuses, c'était quand même plus rare.
Oui, alors comment ça se fait, parce qu'il y a quand même, c'est vrai que le statut de la femme est quand même particulier.
Ah, mais c'était vilipendé. C'était traité comme des moins que rien. Des filles de débauche, de mauvaise vie.
Et pourtant elles chantent, elles sont enregistrées, elles ont des fans,
Elles ont outrepassé, je pense, toutes ces conventions, parce que l'art primait. La passion, elles se sont émancipées elles-mêmes.
Mais alors pourquoi beaucoup de chanteuses juives et en fin de compte, très peu de chanteuses arabes, musulmanes. Enfin, je veux dire, pourquoi il y a ce quota, en fait, on le voit, la plupart des chanteuses sont juives. On pense à Louisa Tounsiar, Habiba Msika.
Habiba Msika, d'ailleurs, bon.
Rita Darman.
Oui, Habiba Msika, c'est presque un nom arabe, hein. C'était plus facile dans les familles juives de chanter que dans les familles musulmanes.
Mmh. Oui, parce que le chant, c'est vrai que le chant est interdit aux femmes musulmanes.
Oui, et c'était moins dans la tradition aussi.
Oui.
Je pense que les familles juives étaient beaucoup plus festives que les familles musulmanes, qui étaient plus prudes.
Et puis la musique, comme souvent dans beaucoup de pays, est vue quand même comme quelque chose qui se fait, j'allais dire, dans le bas de l'échelle. Hein,
oui.
Et puis il y a un côté un peu débauché, oui, débauche dans la musique.
De mauvaise vie.
Voilà. Donc est-ce pour ça que c'est réservé aux Juifs, peut-être dans ces pays-là, comme dans d'autres pays, hein, mais
j'ai pas trop la réponse historiquement. Je pense que les chanteuses, il y en a peu aussi, hein, mais lesquelles qui ont su s'imposer se sont imposées par elles-mêmes.
Mmh. Voilà. On a oublié de citer les sœurs Sfez aussi, Leïla Sfez ou Leïla Fateh.
Oui.
Il y a quand même des grandes chanteuses. Et alors, juste un mot sur Habiba Msika. Il y a un documentaire qui est paru, il n'y a pas longtemps, qui est passé, je crois, à la télé d'ailleurs, sur Habiba Msika. Elle a eu un destin absolument incroyable, tragique.
Mais elle est très adorée, toujours des Tunisiens aujourd'hui, parce que moi j'étais à l'aéroport à Tunis il n'y a pas longtemps, et il y avait une boutique de disques, et ces disques étaient bien en place, bien en vente. Elle est considérée comme le patrimoine tunisien. C'est très important.
Et donc elle avait énormément d'amants. Dans mon souvenir, elle avait même fait scandale. Elle jouait dans des pièces de théâtre, puisque c'était aussi une tragédienne, une comédienne.
C'était une forte personnalité.
Très forte, tout à fait. Ouais. Et elle avait fait scandale, parce que je sais plus, elle était déguisée en homme, elle devait embrasser une femme qu'elle avait embrassée. Oui. Et puis, ça avait déclenché des émeutes. C'était une femme qui...
Elle avait fait avancer le schmilblick musical. Hein.
Tout à fait. Ouais. Et malheureusement, un de ses amants, qui était très jaloux,
destin tragique.
Voilà, pas arrosé d'essence, mais là, tout simplement brûlé en mettant le feu à sa maison. Et donc, elle est morte. Elle avait 27 ans tout juste.
Ouais. Jusqu'à aujourd'hui, elle reste une figure musicale très importante en Tunisie.
Eh bien, on va l'écouter. En parler, c'est bien, mais l'écouter, c'est encore mieux. On va écouter donc un extrait d'une de ses chansons, El Halb Ma Wel El Alm.
Al-Zayb wa
La très belle voix de Habib Amisika dans ce titre El Alma Wel El Ma, et vous excuserez encore ma prononciation, tiré donc extrait de ce beau CD chanteur juif de Tunisie. J'indiquerai à nos auditeurs et auditrices comment se procurer ce CD à la fin de cette émission, bien sûr. Un enregistrement historique qui date de 1928. Elle enregistrait très tôt. Hein.
Oui.
Oui, parce que vous le disiez tout à l'heure, les compagnies quand même de disques se sont intéressées à ce patrimoine aussi.
Oui, ça marchait très bien. Il y avait des disquaires partout, les 45 tours, parce qu'on n'enregistrait pas des albums à l'époque, on enregistrait des 45 tours.
Et des 78 aussi, je crois.
Hein. Oui, les 78 tours et tout ça. Oui, mais c'était d'abord les 45 tours, enfin on enregistrait deux ou quatre chansons qu'on sortait. Et puis la consécration était de faire un album une fois que des 45 tours avaient marché.
Et il y a eu comme ça donc des centaines d'enregistrements, donc
oui,
par lesquels on peut dans tout le Maghreb et le Moyen-Orient. Il y a quelques temps dans cette même émission, on avait parlé de Cheikh Raymond, donc on a retrouvé aussi des enregistrements
78
tours historiques que lui-même enregistrait. Ouais. Mais on avait des grandes compagnies comme Beit Alfron.
Oui, il y avait sa marque d'ailleurs du
oui,
disque. Hein.
Tout à fait.
Oui.
Et ça, c'est ce qui nous permet aujourd'hui d'avoir la trace de ce patrimoine. On a parlé d'une autre chanteuse qui s'appelle Frida Darmon.
Frida Darmon, oui.
Ou Darmon. Oui. J'ai cherché des renseignements sur elle. J'ai trouvé bien peu de choses,
bien
en fait.
Bien peu de choses, oui. Elle a plus été connue dans... Enfin, elle était plutôt je veux dire, confinée dans les fêtes de famille.
D'accord. Ouais,
elle a moins été exposée que Habib Amsika, parce que peut-être aussi qu'elle était plus discrète, elle avait une personnalité plus différente quand même. Mmh.
Ouais. Oui, vous nous disiez aussi tout à l'heure que c'est l'essentiel donc de ce chant s'entendait dans les fêtes familiales.
Ah, comme, tout à fait. Oui.
Comme les bar mitzvahs ou les mariages.
Oui, oui, tout à fait. Oui. C'est les artistes avaient souvent même plusieurs soirées. On pouvait faire une brit mila, on allait faire une bar mitzvah une soirée ensuite dans un cabaret ou un mariage. Ils travaillaient tous les jours, tous les jours.
Mais ils avaient quand même un métier à côté. Alors,
tout à fait.
Alors est-ce que c'était pour vivre ou c'est parce que...
Cacchino de Paz à Saint-Paul, qui était musicien, il était aveugle, avait également un magasin de disques. Donc on pouvait le trouver pour acheter des disques et en même temps l'engager.
Ouais, pour une soirée ou pour une occasion.
Ouais. Albert Guèze, toujours à la rue des Écouffes, avait un restaurant. On pouvait venir y manger, complet poisson, par exemple, couscous, poisson, des grillades, et en même temps l'engager. Voilà, donc c'était, il y avait tout ce. Donc c'était, à l'époque, il n'y avait pas les portables. On savait pour contacter un chanteur, par exemple, on savait que tel musicien pouvait le contacter. Donc on allait à tel endroit, on était sûr de pouvoir avoir le contact pour entrer en contact avec la personne qu'on voulait engager.
C'était toute une époque. On va écouter tout de suite un bref extrait de la voix de Fritna d'Armon dans un air qui s'intitule Adala ya Adala, 1926. Extrait de Adala ya Adala, chanté par Fritna d'Armon, un enregistrement de 1926. Et Fritna d'Armon, donc 1926, c'est l'époque de la Tunisie encore sous, si je ne me trompe pas, c'était un protectorat français. Mais l'histoire des Juifs de Tunisie remonte à la plus haute antiquité. Hein. On trouve déjà trace. Alors il y a la fameuse histoire, on va reparler de Djerba, vous savez qu'aujourd'hui...
Le pèlerinage de la Griba.
Voilà, oui. Il y a le pèlerinage de la Griba où l'on va. Et c'est aujourd'hui, je crois, une des communautés, sinon la communauté la plus importante.
C'est la communauté la plus importante.
Il reste très peu de Juifs en Tunisie aujourd'hui.
Moins d'un millier.
Oui, donc oui. Voilà, dont l'essentiel est se situe à Djerba, encore à Tunis.
Et un peu dans Tunis-ville, j'en ai rencontré il n'y a pas très longtemps. Mm-hmm. On aurait du mal d'ailleurs à les reconnaître si on ne savait pas qu'ils sont juifs. Hein. Ils se fondent dans la masse comme avec la chéchia rouge, la djellaba et voilà.
Et oui. Quelques familles, on trouve également à Sfax, Nabeul, oui. Sousse, mais bien peu.
Ce sont des familles de commerçants qui restent souvent dans le commerce de l'or.
D'accord. Mais avant l'exode des Juifs de Tunisie, avant l'indépendance, on estimait la population des Juifs de Tunisie en 1948 à environ 100 000 individus. C'était énorme. Donc toute une vie musicale, une vie culturelle qui explique
qui laisse des traces
voilà. Que vous avez recueillies. Et après par contre, il y a vraiment, vous l'avez dit tout à l'heure, une rupture avec l'indépendance, avec l'installation en France. Mmh. Et cette rupture, je vous propose de l'écouter musicalement parce que c'est ça qui est assez intéressant. On parlait des chanteuses, on va écouter une autre chanteuse qui est Louisa Tounsia, Louisa la Tunisienne à chaque fois. Et là je me suis permis de faire un montage de deux airs que vous avez dans vos disques. Le premier, donc, c'est Ala Bab Darek, qui date de 1945, et le deuxième, suivi de Ya Ourda, 1960. On est tout près du moment fatal où ça va basculer. Et on va en parler tout de suite après, parce que je crois que musicalement, c'est très parlant. Louisa Tuncia dans deux chants, à la Babdarek de 1945, suivi de Ya Urda 1960. 15 ans d'écart entre ces deux chansons, on a l'impression qu'on a basculé d'univers musical. C'est incroyable. Alors, comment on peut expliquer est-ce que c'est...
Le premier extrait, en plus dans la tradition vocale, musicale, et le deuxième extrait, on a l'impression que les instruments comme la clarinette ont apparu comme ça. Mmh. Et un côté plus fleurette, un peu nonchalance, un peu plus déluré.
Puis ça sonne beaucoup plus occidental, variété presque. Enfin,
oui, ça sent printemps. Mais l'autre est plus dans la tradition.
Oui, mais c'est pas le printemps arabe.
Non.
C'est plutôt un printemps, le printemps qu'on attend ici, mais printemps occidental.
Voilà, exactement. Ouais.
Et alors comment est-ce que c'est parce que justement il y a eu cette bascule.
Je pense aussi qu'il y a la technologie, des studios et tout ça
a
évolué. Ouais.
Oui, c'est vrai qu'on est juste à la sortie de la guerre, et là dans les années 60, c'est un autre son, on recherche autre chose.
On passe du 78 tours au 33 tours vinyle. Donc, il y a beaucoup plus de possibilités.
Et puis, ce qui a contribué à l'évolution de ce répertoire, vous le disiez tout à l'heure, en début de cette émission, ce sont les cabarets, ces fameux cabarets, ces lieux, en fait, vivants d'expérimentation musicale où tout se mélangeait, en fait.
D'abord, il fallait faire ses preuves.
Et alors, on les faisait comment ?
Déjà, en étant engagé. Et ensuite, souvent, les producteurs allaient draguer les chanteurs. Donc on allait découvrir la perle rare dans les cabarets. D'ailleurs, bon, même dans les cabarets français, il y avait les directeurs artistiques, ce qu'il n'y en a plus aujourd'hui, mais ils allaient chercher les nouveaux talents. Aujourd'hui, on envoie des maquettes, mais bon, avant, il fallait aller sur le... Moi, j'aimais bien ce côté vivant, musique vivante, l'artiste. Il fallait qu'il prouve, qu'il montre, qu'il gagne le public. L'artiste sur scène, c'est là où il prouve, il est ou il n'est pas.
Puis là, c'est pas le même public en plus. Dans les cabarets, c'est pas le public. Non, c'est des bar mitzvahs, des mariages, c'est pas un public.
C'est un public qui paye pour venir vous voir. C'est un public qui est plus exigeant. C'est un public aussi qui peut faire le succès avec le bouche à oreille. Et donc, il faut mériter d'être sur scène. Mmh. Et donc, généralement, il faut être bon pour être sélectionné.
Donc, dans ces années 60, mais ça a commencé déjà avant-guerre même, en fait, et ça continue bien après-guerre, entre 1945 et 50, de très nombreux cabarets donc, ont vu le jour à Paris, notamment, vous le disiez, dans le quartier vers la rue des Rosiers, mais également...
La Huchette, oui, voilà, Saint-Michel.
Avec El Jazeï, Les Nuits du Liban.
Montmartre.
Au Soleil d'Algérie. Et on trouvait toutes sortes de chanteurs, pas seulement des chanteurs tunisiens, il y avait des chanteurs algériens, il y avait Blond Blond, notamment,
Halali, voilà aussi. Ouais.
C'était toute une époque. Mm-hmm. Et également.
Et d'ailleurs, ils s'entendaient très bien entre eux parce qu'ils étaient souvent engagés dans les mêmes soirées. Mm-hmm. Il y avait des riches mariages où les festivités duraient une semaine. Et donc, il y avait les chanteurs pour les femmes, les chanteurs pour les jeunes. Il fallait montrer. Donc plus il y avait des festivités et plus votre aura sur votre. Pouvoir personnel était montré. Voilà.
Et un de ces chanteurs tunisiens était Youssef Hajjaj, plus connu sous le nom de scène de José
de Souza.
De Souza, qui a écrit notamment l'Oriental, la fameuse Oriental chantée par...
Oui, on m'appelle l'Oriental, chantée par Enrico Macias.
Voilà, mais c'était du...
Popularisé par Enrico Macias.
Absolument. Ouais. Et on va écouter donc dans votre disque un enregistrement de Youssef Hajjaj de José de Souza, Mala Arousetna.
الفرح عندي غريب والقلب حارس حروسه الفرح عندي غريب والقلب حارس حروسه والقلب حارس حروسه
تلمت جميع الحبايب تلمت جميع الحبايب على فرحة العروس والعروس
اليوم يا ناس فرحتنا هذا عرس بنيتنا اليوم يا ناس فرحتنا هذا عرس بنيتنا شوفوا محلى روزتنا
شوفوا محلى روزتنا
عروستنا شابة ومسرارة وخدودها عكري نوارة عروستنا شابة ومسرارة.
On est malheureusement obligé de raccourcir cette belle voix de José de Souza, Youssef Hajjech, mais que vous pourrez retrouver dans le disque, donc chanteur juif de Tunisie. Youssef Hajjech, qui est toujours en vie, hein, il est né en 1919, il habite dans le nord, je crois, du côté de Saint-Ouen, et coule une retraite presque paisible, sauf que je crois qu'il est reparti dans l'histoire de El Gusto.
Il écrit toujours, il compose toujours. Hein.
Oui, il a composé un nombre incroyable de chansons, oui, je crois 500 ou 600, enfin, c'est absolument, absolument incroyable. Mais Michel Lévy, avant de finir cette émission, il faut quand même qu'on rende hommage à un chanteur, celui dont on parle depuis le début.
Grand El Kahlaoui Tounfi, de son vrai nom, Eli Twitou. D'ailleurs, c'est grâce à lui que les grandes voix juives d'Afrique du Nord, aujourd'hui, ont été enregistrées, parce qu'il avait la direction artistique, et ensuite il est devenu propriétaire des disques Dounia, donc ce qui a permis à Renette Loranaise, à Blon Blon, Lynn Monti, Lily Boniche, Raoul Journeau, etc., René Pérez, Luc Cherki et consorts, d'enregistrer sur un label typiquement juif, dont les patrons étaient juifs, et donc on savait qu'on serait bien traité, que les enregistrements seraient bien réalisés. Et d'ailleurs aujourd'hui, cette marque que j'ai rachetée est toujours vivante.
Donc on va écouter El Kahlaoui Tounsi, Kahlaoui le Tunisien.
خبل هز احزامك يا وتحت خبل هز احزامك يا وتحت خبل ضيعتيني والعقل اهمل هز احزامك يا وتحت خبل هز احزامك
Michel Lévy, on est presque dans de la musique celtique, là, avec ce hautbois qui rappelle un peu le biniou, la cornemuse.
Oui, on se laisse emporter.
Oui, c'est vrai, donne envie de danser. Ouais. Mais malheureusement, notre émission touche à sa fin, donc on va devoir arrêter de danser. Mais vous pourrez retrouver toutes ces musiques, bien sûr, sur le CD Chanteur juif de Tunisie. Où est-ce qu'on peut se procurer ce CD, Michel Lévy ?
Alors, cette collection donc, est disponible à Saint-Paul, donc dans les librairies, librairie du Temple, Diasporama ou librairie du Progrès, rue des Écouffes, rue des Rosiers, tout le monde connaît. Et je voudrais saluer ces librairies qui font un vrai travail aussi de transmission de la mémoire, qui jouent vraiment le jeu avec nous, parce qu'on trouve de moins en moins ces musiques dans les magasins Fnac, etc., qui ne référencent plus, qui sont, vous avez entendu parler, les Virgines ont terminé, la Fnac est à vendre. Donc ces musiques disques-là, il faut vraiment soutenir ces librairies qui sont encore disquaires.
Eh bien, Michel Lévy, je vous remercie pour ce travail de soutien que vous faites à cette conservation, à cette diffusion du patrimoine juif.
C'est un grand honneur, un grand plaisir.
Eh bien, écoutez, continuez, comme on dit, longue vie jusqu'à 120 ans.
Amen.
Voilà, merci beaucoup. Et donc, pour tous nos auditeurs et auditrices, si vous souhaitez donc retrouver les références des morceaux que vous avez écoutés ou réécouter cette émission, vous pouvez vous connecter sur le site de l'Institut européen des musiques juives. Je vous rappelle l'adresse www.cfmj.fr, ainsi que sur le judaïquefm.com dans la rubrique podcast où cette émission sera également disponible. Au micro, Hervé Roten, David à la technique. L'Institut européen des musiques juives a été heureux de vous présenter cette émission sur les chanteurs juifs de Tunisie et vous souhaite une agréable fin de soirée en musique, bien sûr.
Musique juive d'hier et d'aujourd'hui, une émission de l'Institut européen des musiques juives, produite et présentée par Hervé Roten sur Judaïk FM.
I'm sugar for my baby, and my sugar's my sugar for me. Means I'm crazy for my baby, and my baby's crazy for me. Things were mild till I met my honey. Now